aimez, moi je vous aime à lundi.
Vive la Saint-Valentin, profitez bien, ciao. Ma France, c'est avec Wendy Bouchard.
Ici, avec Wendy Bouchard. Ma France.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Ma France. Vous qui vous êtes peut-être figé devant votre télévision, votre ordinateur, en suivant le direct décollage de la fusée SpaceX à destination de la Station Spatiale Internationale à 11h15. L'envol de 4 astronautes, dont notre Française Sophie Adenau qui réalise un rêve d'enfant. Cet équipage arrivera sur l'ISS demain soir pour s'arrimer à 400 km de la Terre. Ces secondes incroyables, on va les revivre et on vous parle de cette mission avec notre invité, le journaliste spécialiste de sciences et d'espace, Alain Sirou. À la une encore, la Garonne reste sous surveillance en Gironde, à La Réole notamment. Les équipes municipales patrouillent pour surveiller les habitations. Le Lot et Garonne toujours en vigilance rouge au cru. Le pic devrait être atteint demain et la Dordogne également en alerte avec le niveau de la Vézère. Nous sommes à vos côtés avec votre radio de solidarité. On vous parle également de cette vaste escroquerie au Louvre. Encore un scandale à la une, un préjudice estimé à 10 millions d'euros avec des guides clandestins et des complices internes. En ce vendredi 13, jour de Super Loto et d'Euromillions, c'est aussi un soir de victoire de la musique. Et puis 13h15, à un mois du premier tour des municipales, notre dossier sur l'accès aux soins près de chez vous. La santé n'est certes pas une prérogative du maire, mais c'est un enjeu majeur pour les communes. Je reçois un docteur généraliste qui préside le syndicat de médecins Réagir et ses recommandations au cœur, là encore, de nos territoires. Et dans Ma France, on s'autorise à prendre un peu de hauteur ce vendredi, à s'envoler avec le prochain équipage de la Station Spatiale Internationale qui est en route. Une capsule est partie il y a plus de 2 heures maintenant, avec à son bord notamment une Française, la deuxième à aller dans l'espace après Claudie Aigneret, Sophie Adenau, avec ses yeux qui pétillent, qui accomplit en ce moment son rêve d'enfant de la Terre aux étoiles. Ce décollage, on a pu le suivre en direct de Cap Canaveral en Floride avec cette fusée SpaceX.
3, 2, 1, ignition and lift off.
Décollage suivi dans tant de foyers dans le monde entier, mais aussi en France, à la Cité des Sciences ou à la Cité de l'Espace à Toulouse. À vos côtés, Claudia Calmel, vous revivez avec nous l'événement. Beaucoup, beaucoup de monde était ce matin autour de vous.
Et ouais, près de 3000 personnes qui ont assisté à ce décollage ici à la Cité de l'Espace, devant des écrans géants. Alors, ça se disperse un petit peu, mais je peux vous dire qu'il y a eu une ambiance très particulière au moment du décollage, une ambiance bizarrement extrêmement silencieuse. On aurait pu penser que le public allait se livrer au fameux décompte, comme on le disait à l'instant, comme on l'entendait, le 3, 2, 1, eh bien non, pas du tout, pas un bruit et pas un seul applaudissement au moment où la fusée a décollé. C'est seulement après quelques minutes, quand la capsule s'est détachée de la fusée et que la phase critique en fait a été dépassée, que les applaudissements ont retenti, une sorte de soulagement, que les phases critiques aient été dépassées. Alors voilà, la capsule est en route pour l'ISS, elle y arrivera a priori dans une trentaine d'heures. Mission accomplie donc pour ce décollage, et je peux vous dire qu'il y a pas mal de sourires ici sur les visages des scientifiques du CNRS ou de l'ESA qui sont satisfaits, qui sont heureux, qui sont soulagés. Des familles aussi venues avec beaucoup d'enfants qui assistaient pour la plupart à leur premier décollage. Et je peux vous dire qu'il y a des étoiles plein les yeux, que pas mal d'entre eux, je pense, ce soir vont rêver d'espace au moment de se coucher.
Évidemment, Claudia Calmel, merci beaucoup pour ici Occitanie. Et je reçois donc dans Ma France Alain Sirou. Bonjour Alain.
Bonjour Wendy.
Journaliste, consultant scientifique, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, c'est toujours extrêmement fou, extrêmement fort, émouvant de suivre un tel départ, ça donne les larmes aux yeux.
Ben, ça n'est jamais banal de quitter la Terre, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, il y a très très peu de gens qui l'ont fait, hein, puisqu'il y a à peu près 600 à 700 personnes qui, depuis le début de l'exploration spatiale, sont sorties du plancher des vaches, en quelque sorte. Mais là, on a en plus la particularité d'avoir une astronaute nationale, et ça touche quelque chose qui est supplémentaire, parce que les vols se succèdent régulièrement, il y a des tas de gens qui sont dans la station depuis plus de 20 ans. Mais là, on a tout d'un coup une astronaute qui porte beaucoup plus. Elle porte d'abord la présence féminine, même si elle dit « moi je suis astronaute hein, », pas une femme spécifiquement. Elle porte aussi le rêve de tas de petits-enfants comme elle, c'est ce qu'elle raconte en disant « quand j'avais 12 ans, j'avais pas un poster d'un chanteur dans ma chambre, mais un lanceur, une fusée, et donc je rêvais d'aller dans l'espace », c'est quand même pas banal. Et puis elle porte évidemment je dirais, les ambitions de l'Europe spatiale dans une compétition qui s'annonce extrêmement complexe et extrêmement excitante.
Cette femme incroyable de 43 ans, originaire de la Nièvre, pilote d'essai d'hélicoptère, colonel de l'armée, dont c'est un rêve d'enfant, en effet, de s'envoler vers l'espace. Elle va s'amarrer demain soir sur cette station spatiale internationale, rejoindre deux astronautes sur place aussi. Ce sont toujours des missions d'importance, Alain Sirou, alors qu'ils sont peut-être pas simples à comprendre. Il y aura beaucoup d'expériences scientifiques à la clé. C'est aussi important pour chaque pays d'être représenté dans ces œuvres.
La Station Spatiale Internationale, c'est une sorte d'ambassade qui est dans l'espace-temps, au-dessus de la Terre, et oui, qui regroupe encore des gens qui se parlent plus au sol. Hein. États-Unis, mmh, Russie, l'Europe, Canada, Japon, enfin, on se parle, mais c'est très à part, bien et sûr. Surtout, c'est quand on est là-haut, ce que disent tous les astronautes, c'est que finalement, quand ils reviennent, c'est pas les étoiles dont ils parlent, mais c'est de la Terre. C'est la Terre vue, ronde, fragile, sans frontières. On sait qu'on habite tous là, et c'est vrai qu'étudier cet endroit, qui est l'espace, qui est extrêmement hostile, extrêmement difficile à vivre, c'est savoir comment la vie a pu apparaître sur notre propre planète. Donc, ça parle évidemment de nous, et ça parle de notre histoire très profonde. Donc, elle va faire des expériences, près de 200, mais elle n'est que le maillon d'une énorme chaîne qui tente de comprendre, finalement, comment tout ça s'est architecturé depuis le début de l'humanité.
Et ben, c'est passionnant. Merci de ces petites évocations et de ces jolis mots, Alain Sirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Ce décollage à suivre, tout s'est bien passé, communique la NASA, avec encore près de 30 heures de voyage pour prendre la route et s'amarrer sur ce port de la Station Spatiale Internationale. Sophie Adenau dans cet équipage et une fierté française. Merci, cher Alain Sirou. L'autre grand titre du jour, ce sont évidemment les conséquences du passage de la tempête Niels. 450 000 foyers toujours dans le noir, moitié moins qu'hier, mais tout de même, un deuxième mort dans le Tarn-et-Garonne. Les vents violents, jusqu'à 160 km/h, ont balayé la façade ouest du pays, laissant la Gironde et le Lot et Garonne en vigilance rouge pour inondation. Nicolas Joly, on vous retrouve au bord de la Garonne en crue, justement, sur la commune de la Réole, où les pompiers, depuis hier, multiplient les interventions. Et vous suivez-vous pour ici les équipes municipales au contact de la population qui viennent les informer et prévoir leur évacuation si nécessaire.
Sous la pluie, David et Jean font du porte-à-porte. Il faut informer tous les habitants de la rue.
Mais la Garonne, elle monte.
Oui, ben on le sait, ça.
Oui, je me doute que vous le savez.
Je le vois, hein.
Mais surtout pour vous dire que vous allez être isolé.
Oui.
Ici. Oui. Et sûrement jusqu'à mardi, mercredi, quoi.
Ah oui, t'as que ça?
Oui.
D'accord.
Ça, vous le saviez pas.
Michel ne s'inquiète pas. Il a déjà vécu la crue massive d'il y a 5 ans.
Tous les champs qu'il y avait en face, ouais, étaient inondés. On aurait dit, ouais, une mer intérieure. Alors, tant que c'est pas comme ça, c'est ça. Mais... Et l'eau était venue à peu près jusqu'au garage, là. Vous avez les premiers bâtiments que vous avez.
Oui, je me rappelle.
C'était pas venu plus haut. Ouais. Donc, espérons que ça dure.
Une confiance à toute épreuve qui agace un peu David.
C'est un petit peu le piège. Moi, c'est ma première expérience. Et Jeannot, lui, il en a connu d'autres. Mais la dame qu'on a évacuée hier, c'est pareil. Elle était sûre d'elle. Et puis finalement, elle a pris peur. Bon, c'était sur les quais là-bas. Mais il a fallu aller la chercher, quoi. Donc c'est en même temps à double tranchant, des fois on les sent sur deux, puis finalement une fois qu'ils sont bien isolés, et disons qu'à un moment donné s'il faut les secourir, après c'est la sécurité des secours qui viennent après. C'est ça qu'ils prennent pas forcément conscience aussi.
Aucun des riverains ne souhaite évacuer. Christian, retraité, n'a pas peur de rester bloqué, et si l'eau monte, il sait quoi faire.
Ah ben, mon plan d'action, c'est de lever déjà le plus possible ce que je peux.
Il n'y a pas vraiment de risque de rester complètement bloqué, quoi.
Ah, moi ici je serais pas bloqué, non.
Depuis son balcon, il regarde l'eau qui monte petit à petit. Le pic de la crue est attendu ce soir vers 19h.
Nicolas Joly à la Réole pour ici en Gironde, toujours en vigilance rouge pour inondations comme le Lot et Garonne. Les ponts de Marmande et du Mas sont fermés. Le pic de crue devrait être atteint demain. En Dordogne, plus de 80 000 foyers sont sans électricité. Des évacuations sont en cours, là aussi à Bergerac notamment. Le pic de crue n'est pas encore atteint et notre radio, ici Périgord, ouvre depuis hier son antenne aux habitants pour trouver notamment des solutions à ceux qui n'ont plus d'électricité, plus de chauffage et parfois même à ceux dont la santé est en danger. Ce matin, c'est Sylvie qui a appelé la radio en direct pour sa cousine de 80 ans dont elle n'avait plus de nouvelles depuis deux jours.
Alors, moi, j'appelle pour ma cousine qui est sur la commune de Saint-Félix-de-Réac. Je téléphone parce que je n'arrive pas à la joindre. Je pense que son portable, du fait qu'elle n'a plus d'électricité depuis mercredi soir, mais son portable doit être déchargé. Elle est isolée. Elle va avoir 80 ans et elle n'a plus de chauffage, évidemment. Le problème aussi, c'est qu'elle a un appareil pour le cœur et qui fonctionne à l'électricité. Et donc, il n'y a personne. Hein. Elle est vraiment en bout de route et il n'y a personne.
On est maintenant avec la voisine de René. Bonjour Marie-Hélène.
Oui, bonjour. Ben, écoutez, quand j'ai entendu l'appel, j'ai appelé Sylvie qui m'a donné l'adresse. Je m'y suis déplacée, j'ai croisé le maire et le groupe électrogène est déjà branché. Donc tout va bien.
Voilà, une très belle histoire de solidarité, de réactivité aussi qui illustre le lien que nous créons par la radio, la vocation aussi d'ici, votre radio au cœur des territoires ici, Périgord, à l'honneur, à midi. Et conséquence de cette tempête encore, plusieurs lignes de train de Nouvelle-Aquitaine sont encore touchées par les dégâts, les chutes d'arbres. De nombreux TER ne circulent toujours pas. La ligne Bordeaux-Agen pourrait reprendre cet après-midi. Une cinquantaine de routes sont toujours coupées par ailleurs dans le Tarn-et-Garonne et une quarantaine d'établissements scolaires toujours fermés. Il est 13h10 et nous nous intéressons à présent à ce qui pourrait être une escroquerie d'une très vaste ampleur et qui concerne de nouveau, décidément, le musée du Louvre, une fois de plus dans la tourmente. Bonjour Coralie Moreau.
Bonjour.
Vous suivez cette affaire, Coralie, pour le service police-justice d'ici, avec 9 personnes en garde à vue, 9 personnes soupçonnées d'un préjudice de 10 millions d'euros avec un système mis en place il y a plusieurs années.
Oui, un système d'escroquerie à la billetterie, savamment mis en place par des guides touristiques et deux agents du Louvre, et qui fonctionnait depuis au moins 10 ans, jusqu'à une plainte déposée l'an dernier par des membres du musée, intrigués par la présence très fréquente d'un couple de guides chinois. Ce couple est alors mis sur écoute et la fraude révélée. Un système assez simple, il faisait passer ces différents groupes de touristes avec les mêmes billets, et qui n'étaient jamais validés par les deux agents mis en cause. Payer donc pour fermer les yeux. Le couple de guides chinois ne serait pas le seul à avoir usé de cette pratique. Le réseau pouvait faire entrer de cette façon jusqu'à 20 groupes tous les jours. En 10 ans, le musée du Louvre aurait ainsi perdu, vous l'avez dit, plus de 10 millions d'euros, réinvestis par les criminels dans des achats immobiliers en France et à Dubaï. Toujours selon le parquet de Paris, le Louvre ne serait pas la seule victime. Le château de Versailles serait lui aussi concerné.
Coralie Moreau pour ici. Merci. Le musée du Louvre qui ferme plusieurs salles après une fuite d'eau survenue dans la nuit. Une peinture murale aurait été endommagée, c'est ce qu'indiquent les syndicats du musée. Emmanuel Macron a fait planter ce matin un chêne à l'Élysée, un chêne en hommage à Ilan Halimi. 20 ans, jour pour jour après la mort de ce jeune homme, séquestré, torturé pendant 3 semaines par le dit gang des barbares parce qu'il était juif. Son visage de martyr demeure un symbole de l'horreur antisémite. Et lors de cette cérémonie d'hommage, le président a ciblé les propagateurs de haine. Il prône l'inéligibilité des élus qui seraient coupables d'actes et de propos racistes et antisémites. Hélas, pour les Juifs de France, le contexte n'est pas rassurant. Écoutons Yonatan Arfi, le président du CRIF.
Le constat aujourd'hui, c'est que nous n'y arrivons pas, que dans notre pays, ces actes se multiplient, que la société se fragmente dans tous les sens. Et donc, effectivement, ça interroge sur le discours public. Alors, on a besoin de mots forts, il y a besoin de réassurance, il y a besoin de rappeler un cap commun, mais il y a besoin aussi que nos dispositifs soient adaptés. Je pense, par exemple, à la circonstance aggravante d'antisémitisme dans certains dossiers qui n'a pas été retenu, par exemple, dans le cas de l'arbre tronçonné en hommage à Ilan Halimi au mois d'août. Je pense à, en particulier, des sujets sur la haine sur les réseaux sociaux. Il y a un sentiment d'impunité aujourd'hui face à la prolifération de commentaires racistes, antisémites, xénophobes en ligne. On a besoin qu'il y ait là aussi des réactions fermes. Donc, de manière générale, c'est un enjeu de société parce que l'antisémitisme commence avec les juifs, mais ne s'arrête jamais aux juifs. Il menace au fond les fondements de notre démocratie.
Yonatan Arfi, le président du CRIF, les institutions juives de France, au micro de France Info. Et à partir de 15h cet après-midi, Sébastien Lecornu, de son côté, va remettre à Matignon le 8e prix Ilan Halimi, destiné à récompenser des initiatives prises par des jeunes pour lutter contre l'antisémitisme. Plus de deux mois après le premier appel de lèse infantile, la cellule d'investigation de Radio France poursuit son travail. Quatre enquêtes pénales ont été ouvertes après la mort de nourrissons. Et on vous révèle aujourd'hui que la France va sous-traiter toutes les analyses de ces lèses suspectées à la Belgique, faute de moyens chez nous, notre pays incapable donc aujourd'hui d'analyser la toxine incriminée. Une étude à la une également sur le prix des billets Ouigo qui s'éloigne de plus en plus des tarifs low cost. La Fédération des usagers apporte des chiffres avec France Inter et Ouest France. En 7 ans, le prix du billet Ouigo aurait flambé de 75% en moyenne. Et pourtant, pas de choix alternatif pour de nombreux voyageurs. C'est un succès pour la SNCF, avec des trains qui desservent les centres-villes, ce qui n'était pas le cas avant, souligne la compagnie, qui explique notamment avec cet argument la hausse des prix. Au JO d'hiver, à présent, la France est 8e au classement. L'Italie a pris la 2e place derrière la Norvège, toujours en tête. Mais nos athlètes s'illustrent et les chances de titre olympique sont encore nombreuses. Une nouvelle médaille en argent arrachée ce matin par Matisse Délogé sur le 10 km de ski de fond, 10 km libre. Et à partir de 14h cet après-midi, on va suivre nos Français en biathlon encore pour un 10e sprint homme, 2 séances de tir et 10 km de course toujours. À ce petit jeu, c'est Éric Perrault, déjà 2 médailles olympiques dans ses valises en autant de courses, qui joue une fois de plus parmi les favoris au milieu des Norvégiens. Éric Perrault, premier JO à 24 ans seulement, qui épate même son entraîneur Simon Fourcade.
Il fait preuve d'une maturité, d'une expérience exceptionnelle derrière les cibles. Je pense que beaucoup pensaient pas qu'il tiendrait la pression, notamment sur des nations étrangères en étant si jeune. Il avait de grandes ambitions avant le début de saison. Il en avait avant les Jeux. Il arrive ici avec un dossard jaune sur les épaules. Voilà, je pense qu'il pose bien les bases et il construit sa carrière petit à petit.
Éric Perrault, mais aussi Quentin Fillon, Maillet, Émilien, Jacquelin, Fabien, Claude, à suivre sur ce sprint à partir de 14h cet après-midi, 16h, le patinage de vitesse avec une change de médaille pour Timothy Loubineau. Et puis 19h, le programme libre pour les jeunes, pour les hommes en patinage artistique. C'est un programme détaillé que vous retrouvez sur ici.fr. Je vous parle aussi du super loto du jour et de l'euro million de ce vendredi 13. La Française des Jeux propose un jackpot de 51 millions d'euros. Vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance à Amiens. Ce vendredi, il risque d'y avoir beaucoup de grilles remplies. Nicolas Fillon a tendu son micro et fait réagir des joueurs occasionnels, loin des addicts aux jeux d'argent.
On ne sait jamais hein, si les étoiles s'alignent. Dans cette morosité ambiante, il faut bien rigoler un peu. C'est un petit coup comme si on jouait une partie de cartes quoi, avec des potes. Quoi. C'est drôle, moi ça reste comme ça, très drôle, mais je n'ai pas d'addiction ni de croire qu'un jour devenir riche. La vie, c'est quand même le travail et puis la santé hein, avant tout.
Pas que cigarette, il coûte 13 euros, je paye 15, je prends quelque chose à 2 euros ou 3 euros, c'est tout. Hein. Je suis occasionnel. Oui, j'ai déjà gagné 10 000. Ouais, jackpot, ouais. Là, je calmais, mais c'est vrai qu'après, c'est une maladie. Hein. Moi, j'ai déjà vu des copains, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu la famille.
Hein. Lorsque je prends un café, il m'arrive de prendre aussi un ticket lorsqu'il y a des gros lots, parce qu'il faut toujours tenter sa chance dans la vie. Des remboursements, j'ai déjà gagné, on va dire ça comme ça. De toute façon, on a beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Hein.
Si je gagne plus de 4 euros, je peux reprendre un autre ticket, mais là, je joue un autre jeu qui rapporte plus. Et si je rembourse, c'est tout, je m'arrête là. C'est pas une addiction, c'est simplement un petit challenge avec moi en me disant est-ce que j'ai de la chance aujourd'hui ou pas, que ça s'arrête à ça.
Et voilà, faites vos jeux en ce vendredi 13. Enfin, vous pourrez suivre ce soir la cérémonie des victoires de la musique en direct de la scène musicale. Parmi les artistes de l'année en compétition côté femmes, Aya Nakamura, Charlotte Cardin, Vanessa Paradis ou Santa. Chez les hommes, vous retrouverez Dizzy, Aurel San, Pierre Garnier et Feu Chatterton. Mais ces victoires sont aussi l'occasion de mettre en avant des révélations musicales de l'année comme Théodora ou Ino Casablanca, avec un hommage à Nicole Croisi ce soir. C'est une soirée qui est toujours un savant mélange de générations. Yann Bertrand.
Et sur la nouvelle scène française, les femmes sont toujours reines. Théodora, Mickey ou Elena dans les catégories révélation et une vraie révolution. Pour la première fois, 5 artistes féminines en lice pour la victoire de la chanson originale. Théodora donc, Charlotte Cardin, Marguerite, Louisa et la Belge Elena.
Ça signifie que cette année, les femmes ont été vachement écoutées. J'ai l'impression qu'il y a plein de jolis projets, il y a plein de choses qui se sont passées et je suis très heureuse de faire partie de cette génération-là. Tout a changé,
viens changer. Si de grands noms comme Aya Nakamura, Vanessa Paradis ou Aurel San sont toujours là, les esthétiques bougent, les genres se mélangent. Chez les hommes, des révélations diverses comme L2B et Ino Casablanca ou Sam Sauvage qui vient de sortir son premier album.
Ouais, ça me tenait à cœur parce que c'est quand même une émission que je regarde avec ma mère depuis longtemps. C'est pas une fierté, je suis fier de pas grand chose. Non, les victoires, c'est plus une reconnaissance. J'ai bien fait sur Parcoursup de choisir un truc facile pour aller faire de la musique plutôt que d'aller faire du droit et de la politique comme je voulais faire de base.
Et avec l'occasion de chanter un morceau en direct, les victoires restent une étape importante pour de jeunes artistes. artistes en quête de visibilité et donc de public.
J'adore.
La soirée des Victoires de la musique à vivre en direct sur ici.fr dès 19h.
Ici, l'actu au cœur des territoires. Ma France.
Et dans Ma France, à un mois du premier tour des élections municipales, on s'arrête sur une autre réalité forte de notre quotidien, l'accès aux soins. Lundi, on vous parlait du défi de la sécurité, vécu comme une urgence par les électeurs. La santé, c'est un autre enjeu capital que les candidats aux mairies de nos communes ne peuvent négliger. Nous sommes avec le docteur Kylian Thomas. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste dans la région nantaise et président du syndicat Réagir, qui fédère de jeunes médecins généralistes à travers la France. Et vous venez, si j'ose dire, à la rescousse des élus qui, vous considérez, ont trop de pression à gérer sur ces questions de santé aujourd'hui, docteur.
Oui, je pense qu'il faut rappeler à tous nos concitoyens que chaque instance dans notre pays a ses fonctions. Et l'accès aux soins en tant que tel n'est pas du tout de la prérogative des maires. Ils ont beaucoup de choses à faire en santé, mais ça, ce n'est pas vraiment leur rôle.
Oui, c'est le rôle de l'État. Le fait est qu'on en reçoit souvent, très souvent, des élus ici qui se vouent corps et âme à ce combat, qui pour remplacer le médecin généraliste qui part à la retraite, pour faire venir des spécialistes dans leur commune. C'est presque un quotidien justement à gérer pour ces élus. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Parce qu'ils ont les pieds dans la terre et les mains dans cette réalité.
Nous, ce qu'on leur dit, c'est surtout d'être dans l'accompagnement de projets professionnels de professionnels de santé qui ont envie de s'investir.
Mmh.
S'installer, c'est devenu un engagement très prenant. En plus, il faut aujourd'hui pas comme avant, il faut faire en fonction aussi de nos données personnelles. Le conjoint aujourd'hui, il travaille. Tout ça, c'est un sacré projet de vie, plus qu'un projet juste professionnel.
Mmh.
Et donc tout ça, on voit bien que en fait, en soi, les maires ont beaucoup de cordes à leur arc pour faciliter,
oui,
que ce soit l'acquisition de terrains, de locaux, que ce soit la gestion des enfants, du travail du conjoint, etc. Donc nous, ce qu'on appelle, on appelle les élus, c'est surtout à accompagner ces jeunes médecins qui ont envie de s'investir, mais qui aujourd'hui se sont noyés dans l'administration.
Oui.
Et tout ça.
On va parler de la manière dont justement vous tissez des liens avec ces différents élus, avec ces médecins à un mois des municipales, avec ces maires plus précisément. J'aimerais quand même que, parce que vous vous adressez aussi aux Français qui ont beaucoup d'attentes dans leurs élus, qu'on écoute ensemble les résultats de cette enquête commandée par la Fédération Hospitalière de France et qui montre que l'accès aux soins se dégrade. 40% des Français déclarent qu'il est compliqué de se faire soigner là où ils vivent. C'est une proportion qui grimpe à plus de 50% de la population dans les communes rurales, précisément, où ici est très représentée. Et par conséquent, Victor Delande, de plus en plus de Français renoncent aux soins.
Au cours des 12 derniers mois, plus de 8 Français sur 10 déclarent avoir renoncé à des soins pour des causes qui maintenant sont bien identifiées, des délais d'attente trop longs, l'absence de médecins spécialistes ou des coûts trop élevés.
Ce constat-là, il est grave.
Zaina Briette est déléguée générale de la Fédération Hospitalière de France.
Derrière, c'est des mauvais états de santé, derrière, c'est des complications et derrière, c'est des vies bien sûr abîmées, mais c'est aussi un coût pour les dépenses de santé, bien évidemment.
À l'échelon local, c'est le pharmacien qui est le plus souvent disponible pour les patients, très loin devant les généraliste. Et pour 7 Français sur 10, le rôle des communes est jugé primordial pour l'accès aux soins.
Ça suppose donc des réformes structurelles et peut-être ouvrir un débat démocratique. Et que ce débat démocratique doit conduire à une loi de programmation en santé. Pour à la fois définir les bons échelons de prise en charge et puis en même temps garantir la formation des professionnels dont on a besoin.
Quant aux mesures concrètes à mettre en place, 80% des personnes sont des plébiscites. L'interdiction des dépassements d'honoraires dans les zones surdotées en médecins. Et 75% souhaitent le rétablissement de l'obligation de garde pour les généralistes la nuit et le week-end.
Le docteur Kylian Thomas est avec nous, médecin généraliste dans la région nantaise, président de l'association Réagir, qui fédère ces jeunes médecins. C'est intéressant ce que disait cette représentante de la Fédération Hospitalière de France. Peut-être créons un débat démocratique et regardons quel est le bon échelon d'action et de prise en charge justement de ces problèmes d'accès aux soins.
Tout à fait. C'est effectivement quelque chose que nous avons, auquel on a réfléchi. Nous, ce qu'on dit justement, c'est que les territoires ont aujourd'hui probablement beaucoup plus d'intérêt à être dans la boucle. Nous, ce qu'on imagine, c'est la communauté plus professionnelle du territoire, donc les CPTS, qui viendraient émettre un diagnostic médical de leur territoire. De le donner aux élus locaux, donc intercommunal, département, et de pouvoir dire on fait telles actions, et ensuite financé par les ARS. Donc en fait, on part de la base pour revenir au national.
C'est pas le modèle qu'on suit, par exemple, ou que suivent certains élus quand ils créent des maisons de santé. C'est ça qui vous pose problème, par exemple, parce qu'on parlait des actions justement mises en place sur le terrain. Ça part pas dans du bon endroit.
Alors ça part d'une bonne intention,
oui.
Et ça part en soi d'un échelon aussi qu'on considère être un bon échelon. Le problème, c'est que des fois, il n'y a pas le professionnel de santé derrière. Donc en fait, on crée une maison de santé, on crée un cabinet.
On crée des murs sans.
On crée des murs
pour attirer, mais
voilà, ouais. Comme on fait un mangeoir à oiseaux, quoi, et on attend que l'oiseau arrive, ouais. L'oiseau rare d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, l'oiseau rare.
Mais en fait, ça, c'est beaucoup de dépenses financières, alors qu'on connaît très bien la situation exsangue des comptes publics, ouais. Notamment des petites communes. Donc c'est vraiment, ça va pas dans le bon sens. Parce que ça doit partir d'abord du professionnel de santé et ensuite l'accompagnement par les territoires.
J'ai quand même vous posé la question qui fâche probablement. Est-ce que les jeunes médecins généralistes veulent aujourd'hui s'installer dans les territoires, dans les communes rurales qui sont sous-dotées, qui souffrent de cet accès aux soins? Parce que sinon c'est le serpent qui se mord la queue, docteur.
Déjà 87% du territoire est déjà en zone sous-dotée,
oui.
Donc il y a forcément des jeunes qui ont envie de s'installer dans un territoire qu'ils ne savent peut-être pas qui était sous-doté quand même. Ensuite, d'enquêtes qui ont été réalisées lorsqu'ils sont à l'internat, donc on va dire dans les 3 dernières années de leur formation, finalement il y a quand même une attractivité de l'exercice dit semi-rural, rural. Pour autant, effectivement, quand on regarde les chiffres de l'installation de l'assurance maladie, on voit quand même qu'il y a très peu d'installations de moins en moins. Et notamment dans des communes rurales, parce qu'en fait, après, la réalité de terrain est là. Il y a une sensation d'isolement, de difficulté, cette fois-ci du terrain, oui. De la vie de tous les jours.
Mais ils plébiscitent quoi, les jeunes médecins, alors généralistes, puisque c'est aussi votre secteur, très clairement. Quelles sont les structures qui les attirent et qui pourraient être des structures d'avenir pour vous?
Très clairement, depuis 15 ans, on voit déjà une chose émerger, c'est les maisons de santé pluriprofessionnelles.
Oui.
Ça, très clairement, c'est l'avenir. Ça met du temps à arriver, mais clairement, on est dans cette dynamique-là. On voit aussi que des nouveaux métiers arrivent pour les épauler, notamment sur le versant administratif avec les assistants médicaux ou potentiellement les infirmières de pratique avancée pour les décharger d'actes, on va dire, où ils ont la plus-value est quand même moindre d'un médecin au diplôme. Donc tout ça, en fait, ça va demander de s'organiser et notamment d'organiser les maisons de santé aussi. Différemment que ce qu'elles étaient jusque-là.
Alors, pour être très clair, docteur, il y a des maires, il y a des adjoints qui sont à l'écoute de Ma France sur votre radio des territoires. On peut profiter de votre présence pour leur adresser un message. S'ils veulent vous aider, s'ils veulent mieux s'en sortir justement pour attirer demain des professionnels de santé, au-delà même des généralistes que vous représentez, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, là, je vous laisse le micro pour vous adresser à eux, docteur.
Alors déjà, il faut la jouer collectif. On ne doit plus voir le maire de la ville d'à côté qui va proposer un loyer moins cher par rapport à la ville rivale.
Parce que c'est concurrentiel, évidemment.
Parce que c'est concurrentiel et que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc c'est pour ça. Regroupez-vous. Il y a les intercommunes qui existent. Il y a les départements. On pense que ça, c'est un très bon échelon pour vraiment gérer un vrai projet. Un projet de guichet qui permettrait à tous les jeunes médecins, du coup, qui ont des questions sur l'installation, de pouvoir avoir un interlocuteur ou des interlocuteurs formés et qui pourront les accompagner, que ce soit pendant leurs études, mais également, du coup, pendant leur installation et même pendant toute leur vie professionnelle, parce que des fois, les besoins peuvent changer. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut... Euh, qu'il faut se battre et qu'il faut créer tous ensemble vraiment cet effort collectif. Quoi.
Jouer la collectif, voilà, c'est aussi la méthode et la pensée de réagir, le regroupement autonome des généralistes jeunes installés, remplaçants en France, dont vous êtes aujourd'hui président fédération de ces syndicats qui accompagnent et qui défendent l'exercice de votre métier au cœur de nos territoires. Docteur Kylian Thomas, merci d'être venu porter cette parole aujourd'hui, d'avoir peut-être aussi soulagé un petit peu la conscience des maires sur ce sujet-là, même si l'enjeu de la santé est majeur, d'avoir fait prendre conscience aussi à un certain nombre de nos auditeurs que voilà, ce n'est pas la prérogative du maire, même s'il est dans cette réalité. Merci de votre présence, docteur. Merci à vous, chers amis, de votre fidélité. Je vous laisse avec vos programmes locaux, la bonne humeur, et je vous dis à lundi, chers amis.
Les victoires de la musique 2026, c'est ici, ce vendredi.
Quelle sera la chanson de l'année? Et les meilleurs artistes? Et les révélations? Vivons ensemble les préparatifs de cette cérémonie des Victoires de la Musique en direct des coulisses de la scène musicale à Paris avec plein d'invités et de surprises.
Les Victoires de la Musique 2026, comme si vous y étiez, c'est ce vendredi à 21h sur France 2 et à partir de 19h sur ici.fr. Ici Mayenne, tous les jours à vos côtés.
Vos infos pratiques en une minute. Le centre d'initiation nature de Laval Agglo au bois de l'Huisserie a installé deux expositions. La première, vous allez découvrir et manipuler des objets étonnants, insectes impressionnants, graines curieuses et puis bois sculptés ou encore des animaux naturalisés. La deuxième est une exposition dédiée aux vêtements que vous portez tous les jours. Elle vous montre de façon simple et ludique ce qui se cache derrière la fabrication de vos habits et leurs impacts. Deux expositions donc qui ont lieu du dimanche 8 février au dimanche 8 mars de 14h à 17h30 et c'est gratuit. Et puis si vous avez des enfants de plus de 10 ans, les mardis 17 et mercredi 18 février, les archives départementales de la Mayenne à Laval vous proposent un atelier pour décrypter les images et parler de l'égalité filles-garçons. Deux créneaux sont proposés, mardi de 14h à 16h ou alors le mercredi de 10h à midi. Attention, les inscriptions se font uniquement en ligne. Allez, rendez-vous dans une heure pour vos prochaines infos pratiques avec Ici Mayenne.
Ici Mayenne.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Wind on Fire, Boogie Wonderland avec Issy Mayenne. Et bien voilà qui nous met en joie et en énergie pour cet après-midi. Ce qui nous met en joie aussi, c'est de vous offrir ce cadeau, votre nuit pour deux personnes dans une cabane à forcer avec le petit déjeuner. Je vous le rappelle, il faut poster votre déclaration d'amour sur notre site Issy Mayenne. Et puis, le tirage au sort se fera demain, donc, avec Hervé Lefebvre à 10h30. Pour l'heure, voici Pierre Garnier, L'Horizon. Bon après-midi à vous à l'écoute d'Issy Mayenne.
Heures du matin, je suis encore réveillé. Je sais bien que demain j'aurai tout oublié. La tête à l'envers, j'arrive plus à penser. Et quand la nuit m'appelle, elle me fait vaciller. Mais dis-moi qui je suis, si jamais je l'oublie. Quand plus rien ne m'attire, que je rêve de m'enfuir. Et je cherche sur la terre l'endroit, le repère, l'horizon, l'horizon. Dis-moi que tout sera comme avant. Je voudrais jamais tout changer, jamais tout abandonner. Mais parfois j'ai peur de ne rien contrôler. Je m'endors dans des nuits agitées, impression que je pourrais vriller. Mais tout me rappelle que je dois continuer. Mais dis-moi qui je suis quand plus rien ne m'attire. Que je rêve de m'enfuir. Et je cherche sur la terre la raison, la raison. L'endroit, le repère, l'horizon, l'horizon.
Ici, Mayenne.
éclate. Un fou qui fait n'importe quoi, qu'elle ne voit rien que pour moi.
La Mayenne est un département dynamique. Claire Martin. Ici.
Est-ce que la Saint-Valentin, ça marche toujours? Eh bien, j'ai demandé à Cécile Garbi, coach en amour en Mayenne.
Eh bien oui, Claire, elle reste très pertinente, je trouve, cette Saint-Valentin en 2026. Environ 60% des Français en couple déclarent encore la célébrer activement.
Cécile, elle l'a remarqué avec ses clients, c'est un moment pour se dire merci et...
Je t'aime.
Les couples la transforment en un moment choisi, authentique, pour exprimer de la gratitude et raviver la connexion, plutôt qu'en une obligation sociale ou de marketing.
Oui, mais bon, un petit bouquet de fleurs, même si c'est cliché, ça fait plaisir, non?
Et loin des clichés qui sont imposés maintenant.
Ah.
J'entends parler de cabane perchée, de yourte, de chalet, ces lieux qui offrent une parenthèse romantique sans de trajet long, parce qu'en Mayenne, c'est vrai qu'on est très bien lotis au niveau de ça. Et puis, il y a les love rooms.
You sexy motherfucker.
Il y a des objets qui sont mis à disposition pour se retrouver et pour passer un moment de plaisir charnel, etc.
You sexy motherfucker.
En plus, cette année, c'est le samedi, donc forcément, ça aide à vivre la Saint-Valentin un petit peu plus intensément quand on peut faire...
Des escapades sans la pression du réveil matinal pour le travail.
Je ravive la flamme. Cécile, elle nous l'a dit, hein, ça marche bien la Saint-Valentin pour ça.
Chez mes clients, moi je ressens que c'est un vrai reset relationnel. C'est une pause dédiée pour sortir de la routine où l'on a souvent la tête dans le guidon de la vie quotidienne.
Et alors attention, hein, gare à celle ou à celui qui oublie la Saint-Valentin, pour certains c'est un sacrilège.
Certains clients le vivent presque comme un rituel un peu annuel, automatique. Mais un rituel qu'ils ne voudraient pas rater, mais pour rien au monde, ils ne voudraient le rater. Il y a ceux qui prennent aussi un immense plaisir à créer un moment 100% sur mesure.
Et on pense à toutes ces âmes célibataires qui en ont marre de la Saint-Valentin. Mais cette fête peut être vécue différemment.
Et puis j'ai eu une très jolie conversation avec une femme célibataire dernièrement qui m'a dit toute souriante, « Cette année, je vais quand même fêter la Saint-Valentin. Je me prépare un plateau repas de folie où... je vais peut-être le partager avec ma meilleure amie. »
Et moi, je viens de recevoir un joli bouquet de fleurs, des roses jaunes, hein, magnifiques, classiques mais efficaces.
Oui, le bouquet de fleurs, la lingerie, les chocolats, c'est toujours très d'actualité.
Cécile, vous qui êtes coach en amour, il y a peut-être un cadeau à éviter?
Il y a le bouquet de roses jaunes qui est dit que c'est effectivement pour tout ce qui est trahison, etc.
Oh. Bon, de toute façon, je ne l'aimais pas vraiment, ce type-là. Moi, mon cœur, il bat pour vous. Alors, peu importe votre situation, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin.
You sexy motherfucker.
Ici, Mayenne.
We'll be right back.
zur Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auf keine Düsenflieger, heute zieh ich meine Runden. Seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn.
Vous écoutez ici.
Ici, Mayenne.
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurt. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So into my wishful eyes, that fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide,
chanson toujours émouvante, celle de Lady Gaga, All My End, avec Ici Mayenne. Vous restez avec nous, la playlist d'Ici Mayenne continue dans moins de deux minutes à nos actes manqués. Je vous souhaite un bel après-midi à l'écoute d'Ici Mayenne.
Ici, vous écoutez, Ici Mayenne.
Je suis partie quelques années sur Rennes et je suis revenue aux sources à Andouillé, là où j'ai vécu toute mon enfance.
Vous êtes ici ? Nous aussi.
Je savais qu'il y avait un château à Mésangers parce que j'ai déjà été à l'intérieur.
Et vous avez pas vu le fantôme ?
Non, j'ai pas vu le fantôme.
Ici Mayenne, le nouveau nom de votre radio locale. Pour la Saint-Valentin, déclarez votre flamme avec Ici Mayenne.
Un mot doux, une déclaration d'amour ou une demande en mariage ? À
à gagner pour vous et votre amour une nuit romantique avec petit déjeuner dans une cabane à Forcé, avec en plus deux parcours acrobranches pour aller toucher les étoiles. Pour participer, rendez-vous dès maintenant sur le site de votre radio Ici Mayenne.
Pour la Saint-Valentin, laissez parler votre cœur. Ici Mayenne soutient la scène mayennaise. Écoutez, voici l'un de nos coups de cœur.
Pierre Bouguier.
Non, stress, je ne te demande pas les restes, juste un pas vers la jeunesse, la mienne, la tienne.
Un Mayennais musicien du partage qui fait chanter les enfants, les lycéens et même les aînés en créant des chorales dans les EHPAD. Pierre Bouguier aime le live et jouer en groupe avec entre autres Mémé Les Watts. Chacun de ses concerts est une aventure humaine. C'était Pierre Bouguier.
Découvrez les artistes mayennais avec Ici Mayenne.
Ici Mayenne, toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Soleil, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osé. Oh, 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 à nos actes manqués. À tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde à ses douleurs qui ne me touchent plus, aux notes au solo que je n'ai pas inventé, tous ces mots que l'on trop fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Visage et dentelle croisées, plus te frôler. Aux trahisons que j'ai pas vraiment regrettées, aux vivants qu'il aurait fallu tuer. À tout ce qui nous arrive, enfin mais trop tard. À tous les masques qu'il aura fallu porter. À nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs. Aux peurs impossibles à échanger. Oh, 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 oh. À nos actes manqués.
radio, une appli au cœur de la Mayenne. Ici Mayenne.
Vous écoutez Ici Mayenne, il est 14h.